PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Bonjour à tous ou bonsoir à tous si vous écoutez le podcast déjà dans la foulée des matchs de l'équipe de France. On se retrouve aujourd'hui pour le 37e épisode de la saison 5 de Vue du Banc. On va parler des deux victoires de l'équipe de France, 4-1 contre la Moldavie et 4-0 contre l'Islande en qualification pour l'Euro 2020. Je suis aujourd'hui accompagné d'Harold Descoumar, de Christophe et Florent, d'El Cuchoïde et de la Tonut, de Christophe Cuchely d'abord, de l'AFP, de la Voix du Nord, de Rosport, des Cahiers du Foot, de tout le web français. Salut Christophe.
Bonsoir, Raphaël Cosmidis du web français également.
Et de Florent Tonuti de Chronique Tactique et encore d'autres choses qui récemment, dans sa dernière vidéo pour Chronique Tactique, avait analysé le Bordeaux de Paulo Sousa, je crois que c'est ça. Florent, salut.
Ouais, salut, puis on en avait parlé dans le dernier podcast, donc je vais pas en rajouter, on va renvoyer les gens à ce podcast.
Si vous avez raté ça et que vous préférez 4 minutes à 40, vous pouvez regarder la vidéo de Florent sur Chronique Tactique plutôt que réécouter le podcast, ce sera aussi efficace. Messieurs, on passe aux deux matchs de l'équipe de France qui ont été disputés lors de cette trêve. Silence l'oiseau. Attends, pause. Ah, excusez-moi messieurs, je suis allé étrangler l'oiseau, il est rangé, il ne fera plus de bruit, on l'espère. Alors donc, je disais qu'on allait parler de deux matchs de l'équipe de France. Florent, on était très curieux de voir comment la France allait enchaîner après son sacre de Coupe du Monde, après la Ligue des Nations, qui était un peu une compétition parallèle et qui paraissait un peu moins importante. On s'est posé des questions sur le renouvellement, sur l'enchaînement, sachant que d'autres pays s'étaient foirés avant, comme l'Espagne ou l'Allemagne. Qu'est-ce que tu as pensé de cette prolongation française de la Coupe du Monde, enfin, de cette équipe qui reste à peu près la même que celle qui a été championne du monde, mais avec un jeu peut-être un peu différent, en tout cas pour ses qualifications?
Bah ça, on peut difficilement dire que ça démarre mal, avec ces deux victoires assez probantes face à deux adversaires que les Français n'aimaient pas vraiment manœuvrer, on va dire, avant la Coupe du Monde. On avait eu je ne sais pas combien de situations où les Bleus se retrouvaient face à des blocs bas et où ils n'arrivaient tout simplement pas à être particulièrement brillants et à faire briller justement leurs individualités. Là, on n'a pas du tout eu la même chose et c'est quand même très positif. Tu comparais en effet le non-renouvellement, le choix de Deschamps de conserver les mêmes têtes pour la plupart à ce qu'avaient fait l'Espagne et l'Allemagne après leur victoire et qui les avait amenés finalement vers des défaites. Il y a une vraie différence avec cette équipe de France, c'est que c'était une des équipes les plus jeunes de la compétition, de la Coupe du Monde. Donc en effet, on peut d'un côté se dire que c'est dommage de ne pas avoir vu des joueurs comme Langlais, comme Laporte, par exemple, qui n'ont pas été appelés sur la dernière liste. Mais d'un autre côté, les joueurs présents restent pour la plupart compétitifs, et les joueurs présents qui, justement, étaient mis en doute par les performances en club de Langlais, notamment, et on peut parler là de Umtiti, ont quand même plutôt répondu présent, et ce, sur les deux matchs.
Christophe, toi aussi satisfait, ou en tout cas, est-ce que tu as passé un bon moment sur ces deux matchs, 8 buts marqués, une équipe qui a été plutôt offensive, qui a cherché peut-être à adopter des principes offensifs un peu plus ambitieux, un peu nouveaux par rapport à ce que proposait Deschamps, même lors de matchs similaires, dans des contextes face à des équipes très modestes comme ça, comme la Moldavie et l'Islande. Là, il y a peut-être un peu plus d'envie d'aller se moderniser, en tout cas de ne pas rester sur les acquis de la Coupe du Monde.
En fait, bon, déjà les acquis de la Coupe du Monde, je comprends ce que tu veux dire, mais finalement la Coupe du Monde, il y a eu autant de matchs où tu as affronté des blocs bas, voire même moins que des matchs où tu as rencontré des équipes un petit peu plus ambitieuses. Alors elles n'étaient pas non plus toutes en folie à avoir des choses aussi risquées au sol, etc., que l'Argentine par exemple, mais même la Croatie est venue te chercher, la Belgique est venue te chercher. Il y a l'Uruguay où c'est discutable, effectivement, Uruguay, Australie, Danemark. Mais globalement, c'est plus pour moi, si tu dois faire une filiation avec un contexte un petit peu identique, c'est plus ce qu'on a vu contre la Biélorussie, contre le Luxembourg, etc., sur cette phase qualificative pour cette même Coupe du Monde, où là, pour le coup, il ne faut quand même pas oublier que, bon, enfin maintenant, ça n'a plus grande importance, mais la qualification pour la Coupe du Monde, elle s'est faite, alors dans la douleur, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais elle s'est faite à la dernière journée. Sur une phase qualificative où tes adversaires n'étaient pas finalement si dangereux que ça, avec la Suède en premier contradicteur. Alors la Suède fait quand même plutôt une bonne Coupe du Monde, mais ça restait quand même mini-goût d'inachevé, le fait de faire match nul en Biélorussie, match nul contre le Luxembourg, etc. Là, pour le coup, tu n'as pas eu ce problème-là. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que l'Islande, j'ai trouvé, a été assez décevante, et la Moldavie était franchement nulle. Donc là-dessus, c'était moins solide que le Luxembourg à l'époque, moins solide que la Suède quand tu perds en Suède, et que globalement tu as toujours des difficultés à affronter ces équipes-là. Donc là-dessus,
la Moldavie qui a pris 4-0 contre la Turquie, hein, Christophe, donc c'est confirmation qu'en effet c'était t'étais pas sur un foudre de guerre ou pas sur une petite équipe qui d'un coup monte et va embêter des grosses équipes. Quand tu prends 4-0 contre la Turquie qui a pas fait un bon tournoi depuis 2008, on en parlait la dernière fois, c'est que bon, tu peux prendre 4-0 contre tout le monde.
Ouais, bah j'ai pas envie de... Bah si, ouais, voilà. En Ligue des Nations, la Moldavie a pris 4-0 contre le Luxembourg. Donc voilà, ça situe... C'est vraiment une très très mauvaise équipe, hein. C'est vraiment du niveau des îles Féroé, etc. C'est l'une des pires en Europe. Donc ça, c'est la première chose, et on va parler vite fait de la Moldavie, mais il n'y a pas énormément d'idées à en tirer, parce que pour le coup, t'avais pas besoin de faire grand-chose pour trouver de l'espace en trois lignes, parce qu'en face, ça t'offrait beaucoup de possibilités. L'autre chose que tu disais sur les principes offensifs, je sais pas si c'est si c'est Deschamps qui donne toute liberté à ses attaquants, et du coup, ces attaquants qui décident de prendre même plus de responsabilités dans le maniement du ballon, de plus dézonner, ou si c'est Deschamps qui avant les cadrait beaucoup, notamment sur Mbappé, qui avait tendance à jouer un peu la carotte, à rester très haut, et qui là se retrouve à mener le jeu. Toujours est-il qu'effectivement, ça reste beaucoup basé sur les initiatives individuelles des joueurs. C'est pas forcément des circuits qui vont se répéter, sauf le fait d'aller sur les côtés pour faire des centres. N'empêche qu'effectivement, il se dégage une certaine fraîcheur, insouciance, folie dans cette équipe qui garde la capacité à être dangereuse à tout moment. Alors que tu pourrais te dire, oui, bloc bas, ça va la contrarier, elle est peut-être rassasiée par son titre de champion du monde, etc. Là, on peut arriver pour moi dans une situation où face aux blocs bas qui ne sont pas des blocs bas de top niveau, comme notamment la Suède, tu gagnes assez facilement 3-4-0 parce que tu auras suffisamment d'occasions et de balles mises dans des zones dangereuses avec des joueurs très doué balle au pied.
Florent, ça fait à peu près 5 ans en fait, depuis que Deschamps est en poste, que les blocs bas embêtent l'équipe de France. L'Euro 2016 a été problématique dès qu'il y a eu un bloc bas. La Coupe du Monde 2018 a démarré lorsque les équipes en face ont arrêté de mettre des blocs bas, et peut-être qu'elles auraient dû les remettre un peu plus vite face à l'équipe de France 2018. Est-ce que tu vois dans ces deux matchs, alors c'est un échantillon faible, une évolution ou des signes de ce qui pourrait amorcer une évolution positive pour l'équipe de France dans ces contextes tactiques-là, sachant que la Moldavie et l'Islande ne sont pas beaucoup sortis de leur terrain et que l'équipe de France, en revanche, a essayé peut-être de rester un peu plus dans le camp adverse qu'elle ne l'aurait fait par le passé ou que Deschamps l'aurait fait par le passé.
Oui, voilà, bah, c'est surtout ça. C'est Pogba lui-même qui le mentionne à la fin du match là, sur M6. Il dit que par rapport à ce qu'il ne faisait pas avant... Il y avait notamment un point très important, c'était le fait de rester haut. Et ce, même après avoir marqué le premier but. Parce que c'est vrai que c'était une des mauvaises habitudes des équipes de Deschamps. C'était, on démarre, on peut parfois aller faire un pressing, aller chercher l'adversaire haut pour qu'il nous rende la balle. Par contre, une fois qu'on a mis le premier but, ben, on se retrouve à attendre en bloc médian. Et de suite, ben, on fait baisser l'intensité de la rencontre volontairement. Alors qu'on a quand même les joueurs pour imposer un rythme beaucoup plus élevé que ce que peut faire l'Islande habituellement ou la Moldavie. Et du coup, le fait de maintenir cette pression, maintenir ce bloc le plus haut possible, même en menant au score, ben ça permet aux Bleus de ne pas laisser respirer l'adversaire et de ne pas lui laisser la moindre opportunité, ne serait-ce que sur un long ballon ou un truc comme ça, d'aller chercher un corner ou une touche intéressante, puisque là, les Islandais, c'était un peu leur spécialité. Encore une fois, ils ont encore tenté de porter le danger sur les buts comme ça. Et à partir du moment où tu maintiens l'adversaire dans ses 40-50 mètres, bah, c'est terminé. Alors parfois, face à l'Islande, c'est passé par quelques fautes, notamment de Kanté, il me semble, qui en fait pas mal en première mi-temps et qui échappe au carton. Mais ça, c'est un des points les plus importants, à mon avis, avec aussi l'animation offensive, la liberté accordée aux attaquants qu'évoquait Christophe, qui permet à des joueurs comme Mbappé et Griezmann, qui auparavant étaient un petit peu assez éloignés l'un de l'autre parce que, par exemple, un mec comme Mbappé était cantonné à un côté, là, bah, il se balade un peu partout sur le terrain au gré de ses inspirations et au gré de là où va le ballon, et ça lui permet de se rapprocher de joueurs qui peuvent lui répondre sur le plan du talent. On peut penser à Pogba, on peut penser à Griezmann dans l'axe du terrain. Et à partir du moment où ces joueurs-là commencent à se trouver dans des petits espaces, etc., bah, il y a forcément de la qualité dans les échanges et le danger qui peut arriver assez vite sur les buts adverses.
Ouais, alors là, la compo était la même pour les deux matchs. Lloris dans les buts, Pavard, Kurzawa sur les côtés, Varane et Umtiti dans l'axe. Milieu de terrain, Kanté, Pogba, Griezmann en 19,5 derrière Giroud, et Mbappé et Matuidi sur les côtés, mais dans les faits, pas forcément. À quoi ça a ressemblé, Christophe, en phase offensive? On n'a pas les heatmaps là sur Oscore. Apparemment, ils n'ont pas dû acheter les droits des. Ou alors, c'est Opta qui ne fournit pas les données pour les qualifs de l'Euro. Donc, on n'a pas forcément les données statistiques qui permettent d'avoir un point très précis. Mais à quoi ça a ressemblé en possession du ballon? Où sont allés jouer Griezmann et Mbappé? Que faisait Matuidi? Qu'est-ce qui a pu changer depuis la Coupe du Monde pour l'équipe de France?
Alors, on va dire qu'il y a quatre postes qui étaient, même six, qui étaient assez fixés, c'est les quatre de derrière et les deux milieux. Tu peux même rajouter Giroud dans un truc un peu différent parce qu'il doit quand même adapter ses déplacements à ceux de l'adversaire. Après, bon, forcément, ça, c'est un peu la spécialité du foot, mais les deux défenseurs centraux sont restés, ont joué en fonction de la hauteur de bloc, mais se sont pas amusés à faire des percées et se sont pas non plus amusés à faire des relances qui cassent les lignes. Je sais que c'est un truc, toi aussi, t'aimes bien voir. Après, dans cette équipe-là, t'en as un petit peu moins besoin. Donc, ils ont pas forcément porté le ballon. Ils l'ont assez vite donné, soit Kanté de Pogba, soit touché les latéraux, encore plus Varane via Pavard que Umtiti via Kurzawa. Après, t'as les deux, Kanté Pogba qui tenait le milieu qui en fait leur intérêt c'était dans la recherche de la passe, à savoir que Kanté cherchait pas mal de passes vers l'avant au sol pour essayer de casser les lignes et toucher Giroud, Griezmann et du coup éliminer le milieu de terrain adverse, ce qu'il faisait pas forcément les années précédentes. Donc du coup, bah au lieu de casser la ligne, la défense qui va éliminer la première ligne de pression, bah du coup tu le fais un peu plus haut, mais t'as quand même cette volonté à un moment de pas te retrouver attaqué face à 9 ou 10 adversaires bien en place. Donc Kanté c'était plus ça, même si parfois il prenait aussi l'espace pour se projeter. Pogba était un peu plus dans des passes en sécurité, j'ai envie de dire souvent là sur ce match, il remet sur Kurzawa et quand il joue vers l'avant, pour le coup, c'est vraiment une passe qui a vocation à être décisive. Alors il fait une passe décisive contre la Moldavie là-dessus pour Griezmann, là contre l'Islande, je crois que c'est pour Giroud, c'est pas cadré, n'empêche que il en tente 3-4, il suffit qu'il y en ait une qui passe et c'est quasiment un face-à-face. Alors sur une balle aérienne, n'empêche que c'est vraiment des passes très difficiles à faire, mais quand elles passent, et pour le coup Pogba a plutôt un bon taux de réussite là-dessus, elles sont très dangereuses. Donc ça c'est la partie défensive qui bouge un peu moins que le reste. Comme on dit depuis tout à l'heure, Griezmann et Mbappé dézonnaient énormément, du coup c'est assez difficile véritablement de... Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils aient eu un schéma de déplacement préférentiel, dans le sens où les deux sont quand même descendus assez bas chercher les ballons. Forcément, Griezmann encore plus bas que Mbappé, dans le sens où Griezmann pouvait vite devenir numéro 8 et quasiment à la même hauteur que Pogba, surtout si Kanté se projette. Et puis Mbappé qui lui va décrocher en 10. Matuidi plutôt dans le demi-espace, mais qui pareil est plus dans un travail de compensation. Mais ça c'est quand même des principes de Coupe du Monde, à savoir que Matuidi et Giroud doivent être capables d'apporter des choses offensivement, mais défensivement ont un travail énorme sur les compensations, etc., simplement dans l'équilibrage du bloc. Mais là où il y a vraiment quelque chose, c'est effectivement le côté Mbappé pouvait se retrouver à gauche, pouvait utiliser son pied droit depuis le côté gauche. Et puis Griezmann, si tu veux, à la Coupe du Monde, en fait, on l'a souvent vu reculer, mais c'était parfois simplement parce que le bloc était bas et que du coup, il se retrouvait dans une position de numéro 10, de numéro 8. Et en fait, il orientait les transitions, mais en étant très bas pour venir au soutien de sa défense, pour vraiment que ça reste très hermétique. Alors que là, il venait au soutien de son milieu de terrain, mais uniquement dans un but de création, parce que l'adversaire ne posait pas de menace et tu n'avais pas forcément besoin de densifier ton bloc pour répondre à une éventuelle attaque adverse. C'était simplement pour que ce côté créatif vienne le plus tôt possible, le plus en amont de l'action basse sur le terrain.
Alors, Florent, Christophe a dit beaucoup de choses. Il a fait la colonne vertébrale des Bleus, on va faire dans l'ordre. Et la première remarque que vous avez eue tous les deux quand on a préparé le podcast, c'était notamment sur Kanté en progression. Ça rejoint une question de Hcardi qui nous demande si Kanté, le fait qu'il soit coaché par Sarri n'est pas un avantage dans sa palette technique, notamment en termes de projection vers l'avant. Alors il note que peut-être qu'il ne sera pas coaché par Sarri très longtemps. Mais, mais c'est vrai que vous avez remarqué tous les deux, j'ai pas vu les matchs, donc c'est pour ça que je me réfère à votre avis expert. Apparemment, Kanté a été plus précis et plus audacieux dans sa recherche de jeu vers l'avant. On sait que jusque-là, en équipe de France, c'était plutôt des passes assez latérales et des responsabilités qu'il préférait confier à Pogba ou Griezmann sur des passes courtes, un peu comme le faisait Makelele, d'ailleurs, toi qui as revu récemment les matchs de l'équipe de France 2006. Bien, ouais. C'était très similaire.
Oui, je vais faire une passe vers l'avant à Christophe parce qu'il a revu le match contre la Moldavie et c'est plus sur celui-là quand même qu'on a vu ce genre de passe de la part de Kanté, donc... Je vais le laisser en rajouter une couche là-dessus.
Et hop, je fais l'appel et je prends cette balle directement en profondeur avant que Raphaël ne surgisse en défense pour me bloquer.
Ça n'arrive jamais. Hein, ça
n'arrive absolument jamais. Tous ceux qui t'ont vu un jour sur un terrain sauront que tu es un Georgien, sous Jorginho. Sans la fiabilité balle au pied. Donc là où c'était intéressant pour Kanté, alors il y a deux choses dans la question, c'était de l'auditeur, à la fois le côté projection et le côté volonté de prise de risque avec le ballon, qui sont deux choses un petit peu différentes. La projection, c'est le moment où vraiment tu vas doser ton appel. Je veux dire, c'est une course, c'est une de l'intelligence situationnelle, on va dire. Alors que l'autre, c'est plus reconnaître que la passe existe, bien sûr, mais prendre le risque de la faire. Donc à la fois, il faut avoir la confiance en soi de se dire, bah tiens, il y a une passe à faire 15 mètres vers l'avant, il y a des joueurs qui sont un peu dans cette zone-là, faut bien que je la dose et pas que je la fasse mal, parce que si elle intercepte, c'est dangereux. Et ensuite, il faut la faire. Donc il faut avoir confiance en soi, il faut que l'exécution soit réussie. Dans l'exécution, il y avait quand même parfois un peu de déchets. Alors pas forcément grave, mais disons légèrement trop forte. Du coup, le contrôle est un petit peu loin, un petit peu vers l'arrière, et du coup la défense a tendance à avoir la possibilité de se replacer haut. Donc c'est pas encore parfait, mais Kanté, même s'il progresse d'année en année, ne sera jamais le meilleur pour faire ça. En revanche, dans sa capacité vraiment à savoir quand est-ce qu'il faut faire la passe et quand est-ce qu'il faut se projeter, c'était vraiment très intéressant. Et le milieu référence, alors même si maintenant il a un rôle un petit peu différent quand il joue sur l'aile gauche, si on peut parler ça d'aile gauche, mais qui est Matuidi, c'était vraiment la référence. Je me souviens de matchs contre l'Espagne ou autre, où il est vu comme milieu récupérateur, mais en fait c'est un box-to-box qui arrive à aller 5 fois dans la surface de réparation adverse, et les 5 fois c'est au bon moment, et malgré une qualité technique moyenne pour finir les actions, au moins il est en situation de le faire. Alors Kanté n'a pas encore ce niveau-là du top Matuidi qui était capable de faire ça quand il était à Paris et en équipe de France il y a quelques années. N'empêche que, mais on le voit aussi à Chelsea, il arrive vraiment à prendre la profondeur et à se jeter vers l'avant à des moments où à la fois il a la possibilité d'être servi, mais en plus où le bloc est équilibré. Et là-dessus, le fait que lui soit aussi capable de faire la course défensive pour revenir si jamais la balle est interceptée est quand même précieuse. N'empêche que si tu rates complètement ta course, tu peux pas combler 15-20 mètres sur une transition adverse. Et donc, comme je dis, autant techniquement, il y a eu des vraies intentions psychologique, et je pense que Sarri est vraiment très utile sur ça, parce que Chelsea, qui affronte tout le temps des blocs bas mais qui est imparfait dans sa construction des actions, a besoin d'un numéro 8 qui soit capable d'utiliser correctement le ballon. Mais le fait de bien se projeter, il l'avait déjà. Moi, quand je l'avais vu les quelques fois en national, ensuite quand il était à Caen, enfin, il avait vraiment cette capacité. D'ailleurs, c'était pas un numéro 6, hein, il jouait plus box to box, un peu plus haut sur le terrain, et il le retrouve et il l'exploite encore mieux qu'avant. Et c'est vraiment intéressant parce que ça t'offre une variété, surtout quand t'as beaucoup de joueurs qui demandent le ballon dans les pieds, d'avoir un joueur au milieu de terrain qui va lui faire cette course, quitte à ce qu'elle soit vaine les trois quarts du temps, parce qu'il suffira d'une fois, soit tu seras servi, soit tu vas déstabiliser le bloc adverse, et ça profitera à tes partenaires.
On continue de remonter le terrain, merci Christophe. On passe cette fois à Pogba avec une question de Tidet Florent qui nous dit « Beaucoup de belles avant-dernières ou dernières passes de la part de Pogba, contrôle du milieu, ne perd jamais la balle, une teinture de cheveux dorés. Pogba est-il le MVP des deux matchs ?» Alors là, est-ce qu'il a, il est de retour en forme avec Manchester depuis que Mourinho a été viré? Ça se passe très bien avec Solskjaer. Est-ce qu'il en profite aussi pour en équipe de France montrer plus de choses? Ça rejoint aussi pas mal de questions sur le fait que dès que Pogba, Griezmann ou Mbappé sont en forme, l'équipe de France l'est aussi.
Bah oui.
C'est la suite logique de la Coupe du Monde.
Ouais, c'est la suite logique. MVP, je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs aussi qui ont été au niveau. Et sur la première mi-temps de ce match face à l'Islande, je trouvais qu'il fluidifiait moins le jeu que Kanté, justement, à côté. Et que il y avait... En gros, il va très souvent chercher à faire une différence ou à prendre le dessus sur un vis-à-vis ou à s'ouvrir un angle de passe plus difficile. Du coup, il peut perdre les 2-3 secondes qui lui auraient permis, par exemple, de lancer Pavard sur le côté droit ou des choses comme ça. Le truc, c'est qu'à partir du moment où il réussit à faire ce qu'il a envie de faire, bah, il va généralement casser une ou deux lignes par une passe de quarterback comme celle évoquée par Christophe tout à l'heure, et du coup, ça peut amener directement une grosse occasion. Donc, il a le défaut de sa principale qualité en équipe de France, qui est de pouvoir envoyer ce genre de passe depuis une position assez reculée. Après, c'est vrai que comme tu le disais, à partir du moment où un joueur comme lui peut avoir devant lui des solutions fiables comme Griezmann, comme Mbappé, voire même Matuidi, parce qu'en deuxième mi-temps, je crois que c'est lui qui met une passe en profondeur, je ne sais plus, qui met le but en position de hors-jeu ou qui est signalé en position de hors-jeu, je crois que c'est Giroud. Alors que s'il avait joué avec Matuidi de l'autre côté qui était disponible et qui n'était pas hors jeu, ça aurait pu faire la même chose. Mais bref, oui, bah c'est le, de toute façon c'est le Pogba qu'on a vu prendre une autre dimension pendant la Coupe du Monde, parce que les premiers matchs c'était pas vraiment ça. On se rappelle de la première sortie face à l'Australie.
Oui, même si c'est en fin de match contre l'Australie, peut-être que la Coupe du Monde elle arrive jamais en France, parce qu'il est quand même décisif sur les deux actions du match contre l'Australie.
C'est vrai.
Aussi, ce que tu disais sur le côté Pogba, ce qu'il disait Pogba a raté, toi tu disais oui, mais Pogba a réussi, notamment face à l'Australie, et c'est le paradoxe, je pense, qu'on aura tout le temps avec lui. Alors, il peut encore progresser, mais globalement, on sait à quel type de joueur on a affaire. Et sur ces deux matchs-là, on a vraiment le résumé de ce qu'est ce joueur qui est... Je parlais tout à l'heure de Jorginho, c'est l'inverse absolu quasiment dans le ratio de choix de jeu qu'il doit faire. C'est-à-dire que Jorginho ne sera quasiment jamais décisif à court terme. Tout ce qu'il fait, ça sera créer des décalages qui vont ensuite profiter à l'équipe plus haut sur le terrain. Et c'est vraiment un pur régulateur et la moindre erreur va se payer cash. Pogba étant plus haut sur le terrain et ayant d'autres qualités, à partir du moment où il est dans un collectif qui, bon, même s'il a aussi besoin de faire sa part du travail sans ballon, hein, mais à partir du moment où il est dans un collectif suffisamment fort pour absorber sa prise de risque et tolérer le fait qu'il fasse des erreurs, il peut faire 15 passes neutres, 10 passes difficiles à rater et en réussir deux. Bah, les deux, ça sera des passes décisives ou quasi décisives. Et à partir du moment où Deschamps a réussi à créer une équipe qui absorbe autant la prise de risque et qui ne se déséquilibre pas via le travail de Giroud, via le travail de Matuidi, etc., bah, du coup, la prise de risque de Pogba est tolérée, voire encouragée. Et du coup, bah, à partir du moment où justement il s'enferme pas dans ce côté passe neutre vers le latéral et que, bon, il force pas trop non plus, mais l'équipe de France a aussi besoin de cette créativité, même s'il y a une part d'échec dedans.
On a parlé de Pogba, on a parlé de Kanté, on a parlé un peu de Griezmann, on reviendra peut-être un peu tout à l'heure sur lui, parce qu'il y a une question intéressante et assez long terme dans des tweetos. Florent, Mbappé a fait des matchs un peu différents. Là, récemment, on avait parlé dans un podcast précédent de son avenir et notamment évoqué nos avis subjectifs sur lui et notre souhait de le voir évoluer en neuf à moyen terme et à long terme. Là, dans ce rôle-là un peu plus libre, comment t'as jugé ces deux performances? Il marque lors des deux matchs, comme Griezmann et comme Giroud d'ailleurs, avec deux buts de centraux. Il a été très libre, un peu comme ce qu'il fait au PSG récemment depuis la blessure de Neymar. Est-ce que ça lui va dans le projet français?
Il a été même encore plus libre qu'avec le PSG, parce que avec Paris, il tenait quand même la pointe, vu que Cavani n'est pas là non plus.
Et Sokol a dit qu'il ne voulait pas qu'il redescende trop pour mener le jeu et qu'il le voulait dans les espaces finaux pour justement utiliser sa qualité de déplacement dans la profondeur.
Oui, de profondeur, oui. Mais non, là, sur ce match-là, c'est vrai que à l'inverse, je m'étais fait la réflexion en cours de première mi-temps face à l'Islande, il y avait quand même très peu de courses en profondeur de la part des attaquants français. En tout cas, en première mi-temps, il y en a eu beaucoup plus en deuxième, parce que ça s'est ouvert côté islandais et que du coup, il y avait beaucoup plus d'espace à exploiter. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on le voyait quasiment dans tous les espaces de création, mais pas ceux de finition, quoi. Un petit peu comme Griezmann, je l'ai même trouvé un poids plus important que Griezmann, qui était plus là pour lier un premier décalage avec c'est-à-dire un décalage à l'intérieur et ensuite une ouverture vers un des latéraux. Mbappé était beaucoup plus dans la percussion, que ce soit à gauche ou à droite, la recherche du petit jeu. Il y a eu quelques situations où c'est lui qui a tenté de lancer Pavard en profondeur sur de longues courses, alors que lui se décaler côté droit pour aspirer le latéral islandais, puisque les Islandais jouent en 5-3-2, et dans ce cas-là, Pavard attaquait dans le dos de ce latéral. Il y a eu quelques passes bien dosées dans ces situations-là. Bref, il a quand même montré une panoplie assez, assez complète et qu'on ne lui connaissait pas vraiment au PSG, ni même à Monaco. Alors évidemment, c'est qu'un seul match face à un adversaire replié, bloc bas, etc. Donc on va pas non plus tirer de conclusion, mais c'est vrai que personnellement, j'ai découvert sur ces deux matchs un visage qu'on ne lui avait quand même pas beaucoup vu. Je ne sais pas si Christophe est d'accord avec ça, mais...
Je vais lui poser la question de Paris Saint-Remontada, parce que c'était aussi une question sur Twitter. Le rôle de Mbappé durant ce match en était un électron libre total, pardon. Qu'en pensez-vous, Christophe? Toi, tu avais notamment un truc à dire sur ce rôle de meneur un peu particulier, notamment sa qualité dans les petits espaces, souvent décrié, mais peut-être à nuancer cette lacune.
Ouais, de base, je pense qu'on a plus tendance à critiquer les qualités dans les petits espaces des joueurs qui sont très bons dans les grands espaces. C'est-à-dire qu'ils sont tellement forts quand ils ont du champ, qu'on se dit, ils sont moins forts dans les petits espaces. Oui, mais tout le monde est moins fort dans les petits espaces. Demander à ce que quelqu'un ait le même niveau d'excellence dans les deux est quand même très compliqué. À part Jawad Zaïri ou quelques autres, ou peut-être Ben Arfa, enfin, il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs qui sont meilleurs pour dribbler dans une cabine téléphonique. Pour moi, demander à ce qu'un joueur soit très bon dans les petits espaces, c'est comme demander à un gardien de sortir des ballons en lucarne par rapport à s'ils sont sur lui ou autre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours mieux d'être bon là-dessus, mais intrinsèquement, c'est quand même plus difficile que dans d'autres contextes. Et là, Mbappé a prouvé que si tu le mettais, si en fait tu oublies ce qu'il est capable de faire dans les grands espaces et que tu le mets dans les mêmes conditions que les joueurs qui sont amenés à jouer souvent face à des blocs bas, tu te rends compte qu'il a de très bonnes qualités. En plus, on le sait, il est très jeune, il est encore en formation là-dessus. Je pense qu'il est même en train de découvrir certaines choses qu'il est capable de faire. Je pense que là, pour le coup, il a dû apprendre aussi des choses sur lui-même, sur sa capacité à amener le jeu. Et ça peut être un problème, mais c'est un bon problème à avoir, de te dire, tiens, est-ce qu'on retarde son intégration en tant que numéro 9 de l'équipe de France parce que pour l'instant, Giroud est encore performant. Et du coup, on découvre que ça peut être un numéro 10 qui en plus se complémente bien avec Griezmann. Donc, on l'utilise beaucoup plus bas sur le terrain alors que son évolution, ça aurait été presque plus de jouer plus haut. Est-ce qu'en club, Tourelle va utiliser ça, ou alors là, c'est simplement la faiblesse de l'adversaire qui fait que ça se voit plus, mais qu'en Ligue 1 et a fortiori en Ligue des Champions, il ne serait pas capable de jouer comme ça, je ne sais pas. Toujours est-il que pour moi, c'est comme quand Kimmich, tu le mets en défense centrale, tu vois qu'il est bon, tu il est au milieu, il est bon, il est latéral droit, il est bon. À partir du moment où l'entraîneur est intelligent et sait adapter le collectif à ces qualités-là, tu mets la pièce manquante où tu en as besoin. Et je vois plus Mbappé comme étant un numéro 9. Mais s'il suffit de le mettre à un poste de numéro 10 en équipe de France, tant que tu auras un attaquant 9 qui va assez peu permuter ou autre, qui va bien tenir la zone et qui va faire le travail défensif et récupérer les centres aériens, ça t'ouvre une nouvelle possibilité de création face au bloc bas. Dans la mesure où forcément les caractéristiques de l'adversaire font que tu auras moins de possibilités d'aller en profondeur.
Parlons du 9 justement, Florent, à moins que tu veuilles tu voulais enchaîner là-dessus, mais on avait longtemps réclamé que l'équipe de France joue un peu plus au sol pour jouer avec Giroud. Là, avec Griezmann, Mbappé, forcément ça va jouer au sol, et c'est peut-être là que Giroud malheureusement trouve un projet un peu plus proche de ce que lui pourrait montrer, peut-être casser son image de joueur maladroit, mais peut-être qu'il est un peu trop âgé pour ça aujourd'hui.
En tout cas, sur ce match face à l'Islande, j'ai été un peu déçu de ces remises. C'est vrai que c'était pas forcément dans le bon rythme. Il y a eu pas mal de déchets, alors que c'est vrai qu'à l'époque, quand il était à Arsenal, il a quand même été à la base de quelques superbes actions collectives. Je crois qu'il y a un des plus beaux buts d'Arsenal là, de ces dernières années.
Avec Jack Wilshere qui finit, ouais.
Ouais, il doit toucher deux ou trois fois le ballon sur l'action, il me semble. Ouais. Autour de la surface adverse. Et c'est vrai que sur ce match-là, je l'ai senti. Alors évidemment, à côté de ça, il met son but, il dépasse David Trezeguet dans les livres, et puis il a fait son taf en mettant son but. Mais c'est vrai que c'était assez décevant de voir certains mouvements gâchés par une remise qui part un peu fort ou qui finit dans les pieds adverses. Maintenant, on verra, parce que de toute façon, cette association, on devrait la revoir. Donc peut-être que, à force de jouer ensemble dans ce genre de situation, peut-être que les remises viendront dans les pieds ou dans la bonne course et que ça se passera mieux. Maintenant, c'est vrai que quand tu as eu des attaquants en équipe de France ou quand tu as un attaquant au Real Madrid qui sera jamais rappelé, mais qui serait très bon, je pense, avec des joueurs comme Mbappé et Griezmann en soutien pour combiner, quand tu as un attaquant aussi à Arsenal à l'heure actuelle qui a remplacé Giroud là-bas, qui est aussi très bon dans ce genre de jeu de haut but et qui en plus, dans une équipe de France où le jeu est beaucoup plus à l'intérieur maintenant, avec Griezmann, avec Mbappé, avec Pogba, serait beaucoup moins esselé, ce qui était son principal point faible. Un joueur comme Lacazette, s'il est esselé avec deux ailiers vraiment excentrés, il va être difficile à trouver, il va avoir du mal à exister. Là, à partir du moment où tu réduis les distances entre les joueurs, forcément, un joueur comme ça devrait pouvoir un peu plus tirer son épingle du jeu. Et là, je parle évidemment de ces deux éléments-là, mais peut-être qu'en ajoutant un numéro 10 comme Fekir qui a été appelé, peut-être aussi que tu vas trouver des associations intéressantes avec un Mbappé qui du coup serait un peu plus haut sur le terrain. Donc ça va être peut-être le chantier d'ici 2020, essayer de trouver l'association la plus idéale devant pour accompagner Griezmann et Mbappé, le troisième homme. Maintenant, Giroud a toujours répondu présent et a marqué sur les... Il marque aussi contre la Moldavie, il me semble.
Oui, il marque sur les deux matchs. Les trois attaquants marquent sur les deux matchs, puisque Matuidi, on peut le compter, je pense, un peu plus bas sur le terrain.
Donc, à partir du moment où le gars continue de faire ses stats et d'avancer, il n'y aura pas de raison pour que Deschamps le sorte, en tout cas de raison avérée. Mais c'est vrai qu'en termes d'association, peut-être que Griezmann et Mbappé gagneraient à être au moins testés avec un ou deux autres éléments parmi ceux que j'ai cités.
Oui, sachant qu'avec Mbappé et Griezmann, tu peux tellement les interchanger que le troisième homme, ça peut être ailier, ça peut être un attaquant, ça peut être un 10.
Exactement.
T'as plein de possibilités, mais ces deux-là sont indéboulonnables. Justement, pour le nom du troisième attaquant, Christophe, il y a Wolf, Marthe Soin sur Twitter, qui nous suggère le nom de Sébastien Allaire. Il nous dit qu'il n'est jamais évoqué malgré sa saison remarquable. Il serait la doublure idéale de Giroud, voire d'ici un ou deux ans son remplaçant si les performances restent au même niveau. Alors c'est vrai qu'en termes de taille, de gabarit, c'est à peu près pareil. Est-ce que tu imagines un Sébastien Allaire imiter un Olivier Giroud? On suit un peu de loin sa carrière à Allaire, puisqu'il a évolué dans des championnats qui sont peut-être un peu moins médiatisés en France. Mais sa saison est pas aussi bonne que Jovic, mais il y a bagarre,
mais il y a complémentarité, surtout dans une attaque à deux. Et je me pose la question, alors à l'heure pour le coup, quand j'ai quand même assez régulièrement vu Francfort, alors bien sûr pas toutes les semaines, mais suffisamment pour me rendre compte que c'est pas un feu de paille, et c'est pas uniquement, enfin, feu de paille, il aime bien le dire, mais que c'est pas juste des statistiques qui sortent un peu de nulle part. Après, je m'interroge vraiment, au-delà bien sûr des capacités à durer dans le temps, sur est-ce que c'est pas l'attaquant un peu grand qui sait faire des choses avec le ballon, mais qui brille particulièrement parce qu'il est dans une attaque à deux avec un profil assez complémentaire. Puisque bon, il a brillé
plus l'enchaînement Pays-Bas-Allemagne, qui en général pour les stades de but est pas négatif. Un peu.
Et encore plus avec Francfort, qui est un entraîneur très offensif, du coup ça booste totalement les stades de Rebic, Jovic, Schaller. Alors tant mieux, je pense que tous sont plutôt des bons joueurs. Après, c'est toujours la question, est-ce que tous sont des bons joueurs qui font une bonne saison, ou alors est-ce que c'est simplement une surperformance générale parce qu'ils sont tous très bien coachés, mais que dès que tu les sépares un petit peu, tu te rendras compte qu'aucun n'a ce talent-là. Comme comparaison hebdomadaire NBA, les meilleures équipes des Spurs, une fois que tu as envoyé Gary Neal, Aaron Baines, etc., dans des autres franchises, tu te rendais compte qu'effectivement, ils étaient un petit peu moins bons et qu'ils étaient simplement très bien coachés et très complémentaires.
Et on peut penser à la magnifique carrière de André Chourleau en Première Ligue.
André Chourleau, magnifique. L'un des joueurs les plus chers de l'histoire en volume totaux d'achat, puisqu'à chaque fois, il était acheté 30 ou 40 millions d'un club à l'autre. Chourleau, découvert par Tourelle, d'ailleurs, chez les jeunes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça n'intéresse personne, mais voilà. mais oui, non, pour Allaire, mais ça fait partie des options. Mais c'est presque... Moi, depuis un an, je pense, je suis convaincu que c'est le profil qui, au moins dans le gabarit, se rapproche le plus de Giroud, et le seul... qui émerge vraiment dans cette veine-là en France. Enfin, j'ai pas forcément en tête, à part peut-être Mateta, mais sinon de jeunes joueurs que tu pourrais imaginer en ce rôle à la Giroud plus tard.
Ajorc.
Oui, Ajorc, oui, effectivement, c'est un peu notre...
Après, c'est vrai qu'à l'air, je regarde ses stats, sur les 3-4 dernières années, il est toujours entre 13 et 20 buts sur une saison. Et là, cette année, il est à 14 buts et 9 passes décisives, plus pas mal en Europa League. Faut que je vérifie ça. Europa League, c'est 5 buts et 3 passes D. Donc, c'est sa meilleure saison statistique. Et il a 24 ans. Il était très très coté hein, quand il est sorti, Christophe, à 17-18 ans. Il a eu un peu de peine ensuite. Mais là, c'est vrai qu'il émerge à nouveau. Peut-être qu'il rattrape le retard qu'il avait accumulé au départ. Alors que quand il sort d'Auxerre à l'époque, je crois que c'est un des joueurs français le plus coté. Il a fait toutes les sélections de jeunes. Il a joué, je sais pas, il a un nombre de sélections d'espoir assez incroyable. Là, c'est juste un retour à la normale. Là.
Ouais, et puis pour conclure, parce que je veux pas faire des trop grands monologues, mais il a que 3 ans de moins que Lacazette. Lacazette a 27 ans. Alors je sais pas dans quel état sont les relations entre Lacazette et Didier Deschamps, mais à partir du moment où tu décides encore plus de passer par le sol parce que tu as moins besoin des centres aériens pour un peu masquer un projet de jeu, ou au sol ça serait plus compliqué et du coup tu fais plus des ballons dans la boîte, à partir du moment où tu fais ces décalages-là, un attaquant qui joue à haut niveau et qui est capable de t'apporter cette qualité technique-là au sol, tu l'as aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut disqualifier à l'air, mais actuellement Lacazette est plus complet et Lacazette, je pense, ne déclinera pas avant 3-4 ans. Donc, du coup, tu as aussi cette possibilité-là qui va peut-être être explorée avant celle d'Allaire. Pourquoi plus Allaire que Lacazette, vu en plus les choix de Deschamps qui aiment bien revoir les gens qu'il a déjà appelés.
Autre question sur des choix, Florent, et là c'est plus sur un joueur qui revient de blessure, c'est Tolisso. Didier Descamps nous demande si à moyen terme on pense que Deschamps va réintégrer Tolisso dans un milieu à 3 avec Pogba et Kanté. Ça avait été vu à quelques reprises avant la Coupe du Monde, ça avait été d'ailleurs plutôt pas mal. N'est-ce pas le milieu le plus complet possible avec un Tolisso en 8 capable de faire du 6 en complément des deux autres? C'est toi, c'est le milieu que je crois que tu voulais voir à une époque, peut-être avec un Nzonzi à l'époque
Ouais, c'était
en 6 à la place de
Nzonzi,
Kanté.
Kanté, Pogba, ouais. Nzonzi, Tolisso, Pogba, ouais, pardon.
Voilà, c'est ça, avec deux 8 comme Tolisso et Pogba qui sont capables un peu de jouer tous les registres, avec un Nzonzi en sentinelle derrière qui protège un peu tout ça et qui leur donne de la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la dynamique de l'équipe de France, tu imagines un retour de Tolisso dans le 11, sachant qu'il y a de la concurrence, il y a du Ndombele, il y a du Aouar, tu peux même penser à d'autres joueurs qui sont pas sélectionnés ou qui pourraient ressusciter comme Rabiot.
Là, c'est difficile à imaginer quand tu vois que tu as une colonne vertébrale assez évidente avec juste en prenant l'axe Varane, Umtiti, Pogba, Kanté et Griezmann, Mbappé. À partir du moment où tu as un tel axe, avec en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, des joueurs comme Griezmann et Mbappé qui prennent encore plus de place sur le terrain parce qu'ils vont dézoner, ils vont aller chercher les ballons dans telle ou telle zone, ils vont parfois redescendre à hauteur des milieux de terrain. Ça devient difficile d'ajouter un troisième milieu de terrain comme Tolisso, aussi talentueux soit-il. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à imaginer. Après, est-ce que Tolisso peut revenir en se posant comme un complément à la Matuidi, c'est-à-dire qu'il va faire surtout du travail de compensation avec une qualité supérieure et en plus une certaine qualité de finition, parce qu'on sait que c'est un joueur
Ça
qui peut
avait
être
été
un.
son rôle à la Coupe du Monde
Ouais.
sur le match contre le Danemark, je crois, et sur quelques rentrées en fin de match.
C'est ça, il était rentré souvent côté gauche, sans être vraiment exceptionnel, mais c'était plus pour faire les. On va dire. Pour rester à 11, hein, pour faire le nombre. Mais c'est vrai qu'il a montré quand même à Lyon qu'il avait cette capacité-là aussi. Maintenant, ça serait l'utiliser dans un registre assez réduit par rapport à ce qu'il est capable de faire. Mais je pense qu'il a les capacités pour prendre la suite, par exemple, de Matuidi qui a 31 ans maintenant. Il me semble, je crois que c'est 87 son année, mais qui risque d'être, enfin qui risque, qui devrait être encore là jusqu'à l'Euro. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est difficile quand tu as une telle colonne vertébrale qui s'est imposée et qui risque de ne pas bouger, sauf blessure ou autre événement malheureux. C'est difficile d'imaginer un Tolisso revenir dans l'équipe et surtout revenir avec un rôle dominant et un rôle principal. Voilà, tout simplement.
Oui, on pense plus à Ndombele ou à Aouar, si quelqu'un qui doit s'installer vu comment leur carrière évolue,
Et
sachant qu'on ne sait
même.
pas vraiment comment Tolisso va revenir en plus de blessures, est-ce qu'il va avoir besoin de beaucoup de temps ou pas. Par exemple, Fekir a bien eu un an avant de vraiment redevenir le joueur qu'il
Et
était.
même Ndombele Aouar aussi. Voilà, ils auront beau enchaîner les prestations. Ndombele, ça sera dur de bouger Pogba-Kanté
Ouais.
dans le cœur du jeu. Et Aouar aura peut-être une carte à jouer justement
Plus haut sur le terrain,
pour ce
peut-être.
fameux poste de Matuidi. Ce fameux poste
Ouais,
de milieu gauche
ouais, ouais.
aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à Lyon, jusqu'ici, et Deschamps aime bien quand même prendre des joueurs au poste auquel ils évoluent en club, et c'est vrai qu'à Lyon, à chaque fois qu'il a
Sauf
joué côté gauche,
Pavard.
ouais, sauf Pavard, c'est vrai, c'est la seule exception, mais c'est vrai qu'Aouar, à chaque fois qu'il a joué à gauche, il a rarement été très très convaincant ou convaincant sur la durée, quoi.
Autre question encore sur des choix éventuels. Christophe, celle-là, elle est pour toi, une question de Jérémy BVT qui nous pose souvent des questions sur Twitter. Il nous demande quels arrières-gauches auraient pu être sélectionnés pour pallier aux absences de nos quatre blessés spécialistes du poste. Lucas Hernandez, Benjamin Mendy, Ferland Mendy, Lucas Digne, je crois que c'était ça. Donc là, c'était Kurzawa qui jouait. Qu'est-ce que tu peux sortir du chapeau, Christophe, à ce poste de latéral gauche? Je sais même pas qui joue à latéral gauche en Europe, c'est les latéraux français. Après, ça va chercher peut-être un peu plus bas, pardon, chez des joueurs qui ont peu prouvé.
Bah, le truc, c'est que je n'ai pas l'impression. Bon, là, déjà, tu me prends un petit peu par surprise, du coup, j'avais pas bossé. Donc, j'ai pas forcément préparé des choses. Dans l'immédiat, le latéral gauche le plus prometteur, enfin, même pas le plus prometteur, mais celui qui monte en ce moment, mais qui partait d'assez bas, c'est Féodé Ballo Touré, qui partait même de très bas l'an dernier, qui monte à toute vitesse, mais qui est pas encore suffisamment haut pour prétendre jouer en équipe de France A, mais déjà qu'il ait été signé par Monaco à un prix très élevé, qui se retrouve en équipe de France Espoir, etc. C'est intéressant, et tu te dis, bah, peut-être que simplement c'était le temps d'adaptation et que d'ici quelques temps, il pourrait évoluer à ce niveau-là, mais on est encore sur des projections où tu te dis, bon, même si Kurzawa, finalement, c'est peut-être plus sur son nom et son vécu qu'autre chose, et que maintenant, je ne sais pas si Kurzawa soit forcément... je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment meilleur que Ballo Touré. N'empêche que si tu restes sur le truc, l'équipe de France A doit se mériter. Il y a tout un parcours un peu initiatique avant, pour pas que tout le monde se croit arrivé après 6 bons mois. C'est un peu tôt pour l'appeler. Abdou Diallo peut jouer côté gauche. Maintenant, je ne suis pas persuadé, même si Pavard a montré que tu pouvais être central et être correct défenseur droit. Est-ce que Abdou Diallo pourrait être un latéral gauche qui plairait à Deschamps, et même est-ce que lui est vraiment un latéral gauche de bon niveau et pas simplement quelqu'un qui peut un peu faire bouche-trou quand il est aligné à ce poste-là? C'est difficile à dire, parce que même Zagadou avait fait bouche-trou côté gauche à Dortmund, alors qu'il n'a ni le gabarit ni vraiment les qualités pour jouer à ce poste-là.
En Allemagne, mais... je pensais à Roussillon aussi,
ouais,
par exemple.
C'est celui que j'allais évoquer, moi. Ouais.
J'avoue, c'est vrai que maintenant que vous le dites, mais je vais être très honnête, je l'ai juste entreaperçu cette saison. Il paraît qu'il est bon. Maintenant, je vais pas avoir une expertise sur les performances de Roussillon cette année. Il joue et il y a plutôt des bons retours. Ouais. Mais je sais pas si.
On est plus sur le souvenir de ce qu'il faisait à Montpellier que ses performances à Wolfsburg.
C'est ça, c'est comme Moukielé, qui est aussi international espoir, si on parle. Bon, pas de latéral gauche, hein, mais des défenseurs qui sont partis en Allemagne, bon, lui joue un peu moins. Mais si tu veux, on est plus sur le souvenir de ce qu'ils peuvent faire que vraiment. Bon, j'imagine que le staff de l'équipe de France suit, et que, en plus, Roussillon est plutôt à un âge où, si tu dois le sélectionner, bah, c'est, je pense, maintenant ou dans l'année qui vient. Mais c'est. Alors, mon absence de réponse met quand même en lumière le fait que, même si c'est pas très nouveau, t'es plus de mal dans le football international, mais encore plus en France, un peu comme en Italie, à trouver des latéraux qui soient de bon niveau et qui soient surtout ça. Au niveau de tes postes comme dans l'entrejeu, où tu pourrais faire 5 équipes de milieu de terrain, quoi.
Après, là, t'en as quand même 4 qui sont blessés, donc c'est une situation assez rare, sachant que les 4 qui sont blessés sont plutôt des joueurs pas trop mal, vu que Digne a revitalisé sa carrière depuis qu'il est parti à Everton. Après, il y a aussi l'option, comme l'a fait l'Espagne, de transformer un ailier un peu limité en un latéral, comme ils le font avec Jesús Navas, parce que apparemment le staff espagnol écoute les vues du banc d'il y a un an et demi. Merci Luis Enrique. On avait proposé cette option. Bravo à Jesús Navas de donner un sens à sa carrière. Dernière question, Florent. Une question sur Griezmann. On a parlé un peu tout à l'heure. Là, une question un peu folle de Victor Béguignon, qui nous demande s'il se lance, malgré cette peur de poser une question idiote. Il nous dit « Serait-ce fou de voir Griezmann, en fin de carrière, entre parenthèses, être placé plus bas sur le terrain en genre de Pirlo ?» C'est vrai que vous avez dit qu'il avait beaucoup décroché, beaucoup désonné pour toucher le ballon. C'est peut-être ça qui a inspiré cette question de Victor Béguignon. Est-ce que Griezmann, le 9,5-10, pourrait reculer comme d'autres joueurs ont reculé, mais c'était souvent plutôt dans leur carrière quand même?
Je pense que ce serait à gâcher, parce que ça serait quand même perdre ce qui fait aussi l'une de ses principales qualités, c'est que c'est un très bon finisseur. Donc j'imagine plus une fin de carrière où il devient un 9 plus... Je vais pas dire à la Ronaldo, mais un 9 plus finisseur et plus haut sur le terrain et soutenu par un deuxième mec qui ferait beaucoup de courses comme lui les fait encore aujourd'hui.
Plutôt que l'inverse. Qu'il a un très bon jeu de tête, hein, même si on l'utilise pas toujours en équipe de France, mais il en a quand même claqué quelques-uns très importants.
Ouais, il a une bonne détente aussi. Donc je l'imagine plus finir comme un 9, comme il y a pas mal de 9 en Espagne. Âgés qui peuvent finir et continuer à claquer des buts jusqu'à 33-34 ans, plutôt qu'un mec qui redescendrait au milieu, mais avant tout parce que c'est un joueur qui quand même a une qualité de finition qui est bien au-dessus de la moyenne, il me semble.
Mais de toute façon, j'avais pas vraiment d'exemple de joueur similaire. Il me semble me rappeler, Christophe, qu'en tout début de carrière, quand Guti commence à jouer au Real des Galactiques, il joue très haut sur le terrain, et que petit à petit il reculait pour jouer plus bas. Mais après, c'était un profil quand même différent de Griezmann. Sinon, tu as des profils à la Laurent Blanc ou comme ça qui ont que des Mareo, mais.
Après, Guti, il a reculé aussi parce que le Real achetait des attaquants et
Oui.
commençait à empiler des attaquants. Du coup, s'il devait jouer, il était condamné aussi à jouer plus bas, quoi.
Ouais,
Mais là, tu
aussi, mais
vois,
c'est vrai que.
par exemple, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais c'était une autre question sur Griezmann. C'est qu'aujourd'hui, il est annoncé au Barça. En tout cas, la rumeur commence à reprendre et à reprendre de l'ampleur. Et
Il faut que
là.
Gérard Piqué finance cette documentaire, mais.
C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, ce serait plus pour remplacer Suarez. Que occuper le poste de Messi, par exemple, parce que
Ouais.
donc on est plus dans cet esprit-là, je pense, d'un Griezmann qui va peut-être être moins hyperactif et moins aux quatre coins du terrain et se concentrer sur une des choses qu'il fait très bien en fin de carrière, ce serait ce qui se passe dans la boîte et la finition.
J'ai
Ça
juste un
pense.
truc à rajouter là-dessus.
Vas-y,
Pour
Christophe.
moi, la qualité principale de Griezmann est qu'il perd pas sa qualité de passe, de déviation, tout ça dans les petits espaces. Et que finalement, enfin, même âgé, ça, il le perdra pas forcément, il aura peut-être moins de vivacité dans les courses ou autres, mais tu pourras toujours le servir sous pression dans ces zones-là. Et que normalement, quand tu recules, bon, un, t'as une qualité de passe longue que lui a pas forcément, mais en gros, tu quittes une zone dense où il y a beaucoup de monde pour avoir plus de temps et pour pouvoir au maximum exploiter tes qualités de passe qui seraient pas forcément visibles parce que t'as pas cette vivacité pour te démarquer, etc., dans la zone très dense. Alors que lui, au contraire, il s'épanouit comme peu de monde. On l'a vu, la manière dont il lançait les transitions pour la France lors du dernier mondial. Il est très à l'aise dans cette zone peuplée, donc je vois pas en quoi il serait forcément meilleur. Si qu'il soit privé de temps, ça influe assez peu sur ce qu'il est capable de faire.
Tu le
Donc
vois
lui.
plus comme une fin de carrière à la Totti, un peu en faux neuf, qui lance des mecs autour de lui en
Ça
une
pourrait
touche ou.
être ça
Exactement.
aussi, ouais.
Une très bonne remarque, je n'ai rien à rajouter. C'est ta meilleure remarque depuis au moins 6 mois dans ce podcast.
Ouais, j'ai senti que j'ai mis tout le monde d'accord avec cette remarque. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les matchs de l'équipe de France ou sur d'ailleurs les qualifs de l'Euro? Il y a eu pas mal de résultats, de matchs intéressants. On aurait pu parler de Pays-Bas-Allemagne, Florent, mais bon, ça commence à dater un peu. Puis on en reparlera peut-être quand les
Ouais,
compétitions seront plus avancées.
on peut juste dire que ce Pays-Bas-Allemagne n'a pas déçu et était un match très plaisant, comme les matchs de la Ligue des Nations d'ailleurs entre les deux équipes avaient été très
Oui.
plaisants et intéressants. Et voilà, tout simplement. Et vivement le match retour, parce que je pense que en termes d'affiche sur ces qualifs, on en avait parlé dans le précédent podcast, Raphaël, on risque de pas vraiment être servi, donc il faudra savourer le match retour, je pense.
Ouais. Et il faut signaler que sur ces premiers matchs de qualif, on a passé 2 paris sur 4, Florent. Et que, chose encore plus folle, j'ai passé un pari
Oui, la
grâce à la
Suède.
Suède que je hais tellement. Donc merci aux Suédois qui a quand même gagné dans la difficulté. Mais on a plutôt bien commencé. On passe tous les deux des paris au-dessus de 2. Donc on s'en sortirait si on avait parié pour de vrai. Peut-être que tu l'as fait toi d'ailleurs. Moi
Non,
je le sais pas.
je ne l'ai pas fait, et heureusement parce que j'aurais été chafouin sur le 4-0 des Bleus, sachant que j'avais joué la
Oui.
victoire 1-2 ou 3-0. Voilà. Mais bon, je l'ai senti venir. J'aurais dû jouer le quatrième but en live, il serait sans doute passé. Voilà.
Oui, d'ailleurs, autre chose qui n'a aucun rapport, mais je me rappelle que quand j'ai réécouté le début du podcast précédent, on avait promis qu'on parlerait de la réforme éventuelle de la Ligue des Champions. On l'avait pas fait finalement, Florence, parce qu'on n'avait pas eu le temps. On n'aura pas eu le temps non plus aujourd'hui, mais on en parlera peut-être quand l'actu sera un peu moins chaude au cours de la saison, peut-être en fin de saison pour un podcast bilan de la Ligue des Champions.
Ou quand la
Ça
Ligue des
peut
Champions
être
reviendra,
aussi.
oui, d'ici les quarts de
Ça
finale,
peut être
peut-être. On
aussi
verra.
intéressant. Mais on va passer maintenant au pari avec PMU.fr. Et je vais commencer, je vais te laisser la parole, la tenue, tu vas enchaîner. Tu nous proposes deux paris, tu nous proposes d'abord, bon, je vais te lancer sur ta zone de confort, un pari sur Amiens-Bordeaux, un match alléchant, dis donc. Sauf que maintenant tout a changé à Bordeaux, parce qu'il y a Paulo Souza, c'est François Camano qui l'a dit.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est plus un pari presque incantatoire qu'autre chose. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu as mentionné le fait que j'ai monté une vidéo sur les circuits de relance de Bordeaux avec Paulo Souza après le premier match face à Rennes. Et je me dis que là, ils ont eu quand même quelques jours de travail. Alors certes, il y avait au final quelques joueurs, voire même pas mal de joueurs du 11 type qui sont partis en sélection, notamment les sélections espoirs. Avec Jovanovic et Basic qui ont été appelés en Croatie, enfin en Serbie et en Croatie, pour garder le même ordre. Mais je me dis qu'ils ont quand même pu plutôt bien bosser et que face à Amiens, qui est dans une situation, on va dire, quasi sauvée, même s'il leur manque forcément mathématiquement quelques points, mais on sait aujourd'hui que le maintien va se jouer surtout entre Guingamp, Caen et Dijon. En tout cas pour éviter les places de 19e et de 20e, et du coup pour attraper la place de barragiste. Du coup, je me dis que bah, Bordeaux va peut-être aborder ce match en proposant un peu plus de spectacle que face à Rennes, avec une équipe en progression sur le plan offensif, sur le plan de la répétition des circuits, sur le plan des choix dans les 30 derniers mètres, qui ont un petit peu fait défaut face au Stade Rennais. Et du coup, une équipe de Bordeaux qui gagnera peut-être pas le match, mais qui sera peut-être capable de marquer au moins 2 buts à cette défense d'Amiens, qui est une défense qui, on va dire, est assez irrégulière depuis le début de la saison. Donc voilà, Bordeaux qui marque 2 buts ou plus, la cote est à 2,90. Et ça me paraît plutôt intéressant, c'est aussi pour ça que je la joue, c'est parce qu'elle est assez élevée à mon sens.
Assez élevée parce que Bordeaux ne marque pas de but, ouais, on voilà. Le rappelle. Ton deuxième pari t'emmène en Espagne sur un match entre le Rayo et le Betis, le Rayo qui a vu le retour de Paco Jiménez récemment.
Voilà, alors je pense que c'est le seul argument, mais les prises de fonction de Paco Jiménez aboutissent assez souvent à on va dire certaines envolées sur le plan offensif, que ce soit de son équipe mais aussi des adversaires. Et c'est vrai qu'en face, le Betis est une équipe qui n'a pas forcément l'habitude de beaucoup marquer. Mais face à une équipe comme le Rayo qui devrait, en tout cas si elle reprend les habitudes de Jiménez et si elle les reprend rapidement, devrait aller chercher le Betis assez haut et tenter de le presser et de le maintenir dans son camp, je me dis que le Betis va avoir des occasions et du coup va peut-être marquer dans les demi-temps. Voilà, ça ne leur est pas arrivé très souvent cette saison parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui marque assez peu, qui a des problèmes de buteurs et d'attaquants. On en avait assez parlé au moment de la double confrontation face au Stade Rennais et surtout du match retour. Et du coup, je me dis que face au Rayo, ils vont quand même avoir assez de situations pour pouvoir les convertir en but. Et donc, je me dis que le Betis va peut-être enfin marquer dans les demi-temps. La cote est à 3,20, donc elle me paraît aussi très intéressante. Je tente des cotes assez élevées après avoir maintenu, le pari, mes gains à zéro là cette semaine. Et si vous êtes vraiment très joueur, vous avez le Betis qui gagne les demi-temps, et là c'est à 7,50. Donc si vous voulez passer un très bon week-end, si ça se passe bien pour vous, ça peut être un bon billet à mettre. Voilà.
Je craignais, Florent, qu'il ne propose pas ton pari parallèle comme à chaque fois, mais tu l'as fait, donc bravo à toi, il y a toujours cette double option.
Après, je vais te laisser le lancer, mais j'ai aussi laissé en bon prince et en tant que chip leader, j'ai laissé un pari. Un conseil à Christophe, donc qui va pouvoir le développer ensuite.
J'aime cette condescendance, et c'est vrai que Christophe a besoin d'aide. Mais on va d'abord rester en Espagne, Christophe, avec tes deux paris. Le premier, c'est sur Séville-Valence. Choc intéressant, choc pour l'Europe. Dis-nous ce que tu vois sur ce Séville-Valence, Séville qui s'est récemment séparé de Pablo Machin.
Alors la transition est logique, mais c'est dommage parce que j'avais une remarque très insultante et très vexante envers Florent.
Tu la diras après, elle aura plus d'impact après être réfléchi.
Alors, Séville-Valence, mon pari c'est moins de 1,5 buts, donc 0-0 ou 1-0 pour l'une des deux équipes qui cotait à 3,30, que je trouve extrêmement élevé. Pour Valence déjà, je fais ce choix parce que Valence qui a fait 0-0 face à Getafe la semaine dernière, lors de la dernière journée, qui avait marqué 3 et 2 buts sur les deux journées précédentes, mais sinon c'était un partout, 0-0, 0-0. Globalement, Valence marque très peu, bien classé, hein, 7e, alors que Séville est 6e, mais avec seulement 30 buts en 28 matchs. Alors heureusement que Rodrigo s'est réveillé, sinon je pense qu'il y aura encore 7 ou 8 buts de moins, c'est-à-dire que Valence produisait à un niveau à peu près équivalent à l'an dernier. Je pense que Valence doit être encore deuxième aux expected points, ou troisième, il me semble. Que je dise pas de bêtises, ça doit être Séville qui est deuxième. Enfin bref, mais Valence était plutôt mal payé de ses efforts. Ça a légèrement tourné offensivement, mais ça reste quand même, on va dire, poussif. Valence est toujours dans son 4-4-2 assez solide. Oui, voilà, j'ai les chiffres sur les yeux. Ça se tire la bourre, mais Séville est deuxième à expected points. Valence est troisième, le Real quatrième. Et de l'autre côté, Séville, c'est surtout pour Séville que je fais ce choix-là. Et à mon avis, c'est la présence de cette équipe-là qui fait que la cote est aussi élevée. Pour faire ma petite promo, j'avais écrit sur le changement d'entraîneur de Séville et la première de Joaquín Caparrós à la tête de cette équipe en remplacement de Machin dans le journal du jeu sur lequel il y a eu du foot la semaine dernière. Et là aussi, en parlant de bloc, Séville qui était très offensif avec sa défense à 3 pour le coup et vraiment pas à 5 parce que ça partait vraiment dans tous les sens avec Jesús Navas sur le côté, parfois Promesse qui était même aligné latéral de l'autre. Ça attaquait énormément, ça prenait beaucoup de risques. Là, Caparrós, ça fait un truc beaucoup plus béton, un 4-4-2 à plat avec un double pivot Amadou Gonalon. Alors même si Gonalon a fait des une bonne utilisation du ballon dans le jeu au sol face à l'Espagnol Barcelone là, sur la première de Caparrós. C'était quand même un truc beaucoup plus conservateur, et surtout une fois le but marqué par Ben Yedder, bloc bas et on défend, un truc assez peu en raccord avec l'état d'esprit de Séville depuis quelques années, qui avec Sampaoli, avec Montella, avec Machin avait essayé de proposer du jeu. Bon, ça avait été une victoire, mais tout ça pour dire que Séville n'avait pas créé énormément avant de marquer ce but, et une fois que ce but avait été marqué, il y avait eu un refus de jeu absolu. Donc du coup, je pense que soit ça fera 0-0, soit il y aura 1-0 pour Valence et Séville sera incapable de marquer, soit il y aura 1-0 pour Séville et du coup Séville va ne faire que défendre et du coup il n'y aura pas de deuxième but. En tout cas, je le sens comme ça. Donc voilà, moins de 1,5 but dans le match, côté à 3,30. Mais j'espère pas me tromper, mais j'espère que Séville va proposer un petit peu plus que lors du dernier match, parce que c'était quand même assez déprimant.
Bon, tu vas enchaîner par ce Fulham City, ça te donne l'occasion d'insulter Florent. Quel mot avais-tu choisi ?
Non, je préfère...
La colère est passée ?
Ma colère est passée, je préfère simplement dire que du coup, en disant que c'est lui qui m'a conseillé le pari, bah, il sera responsable s'il échoue. Et donc ce pari, c'est City moins 1 à la mi-temps à 2,60, donc que City mène 2-0, 3-0, enfin, en tout cas avec plus de 2 buts d'écart. Au début, je voulais plutôt partir sur plus de 5,5 buts dans le match, en imaginant un 6-0, ou un 6-1, un 5-1, donc un truc assez yolo. Finalement, je me suis un petit peu calmé, parce que cette cote-là me paraît... Enfin, est pas si éloigné que ça de l'autre, qui devait être à 3,30, je crois. Et pour le coup, que City mène deux buts à la mi-temps me paraît très... Alors, pas probable, mais très envisageable, dans la mesure où Fulham a totalement lâché la saison, mais depuis un moment déjà, qu'il y a déjà eu deux changements de coach et que ça ne change pas grand-chose. 70 buts encaissés en 31 journées, c'est la pire équipe de Première Ligue là-dedans. J'ai pas envie de vérifier, mais je pense que ça doit être aussi l'une des pires d'Europe. Il y a quasiment plus que des défaites, là. Je sais même pas s'il y a véritablement un projet de jeu ou si Scott Parker est nommé pour faire... parce qu'il faut bien nommer quelqu'un en attendant de repartir à la saison prochaine à l'étage inférieur. Mais tout ça pour dire que Fulham, alors, je t'ai peut-être vu le match, Raphaël, mais Liverpool a un peu galéré là sur la dernière journée, n'a gagné que 2-1, mais c'était pas faute d'avoir des milliards d'espaces un peu partout sur le terrain, parce que Fulham défendait vraiment n'importe comment. Donc je pense que si tu fais la même chose face à City, ça peut très mal se passer. Et vu que City a pris l'habitude de marquer beaucoup sur les débuts de rencontres depuis quelques semaines, et surtout en première période, alors que traditionnellement il y a plus souvent des buts dans le foot en deuxième qu'en première, ça paye un peu plus de parier sur les buts en première période. Alors City a eu un peu plus de mal face à Watford, les a mis en deuxième, mais sinon contre Schalke, etc., ça avait marqué très vite et très vite fait la différence. Donc voilà, je pense que ça peut être plié à la mi-temps. Pas sûr que ça continue à enfoncer le clou en seconde, mais en tout cas je vois pas Fulham tenir très longtemps. Et en tout cas, Fulham aura confirmé que c'est pas parce que tu arrives en première ligue que tu es richissime et que tu achètes plein de joueurs que tu te maintiens. Il faut aussi qu'il y ait une certaine cohérence dans ton recrutement, et que Chourleux, Vieto, prendre deux gardiens différents, prendre Zambo, Anguissa, Série, le marchand, enfin, c'était pas très logique. Là aussi je suis fier, parce que j'avais écrit là-dessus en début de saison. Et bah écoute, voilà, c'était pas très logique et ça n'a pas été démenti sur les terrains.
Ouais, ils ont un peu fait une Arles-Avignon avec des bons joueurs là, le Arles-Avignon de Michel Stenas. Oui, voilà, ils l'ont fait avec des joueurs qui n'étaient pas cramés là pour le coup, Fulham. Donc tu peux imaginer qu'ils vont réussir à en refourguer pas mal la saison prochaine au moment de la redescente. Mais c'est vrai que le renouvellement de l'effectif, a été un peu trop brutal peut-être. Alors certes, en comparaison, Huddersfield qui recrute pas un joueur, c'est pas top non plus.
Mais Cardiff, qui n'a quasiment pas recruté non plus, a des chances de se maintenir.
Après, Cardiff est une des pires équipes d'Europe à regarder cette saison. Donc, ça va se maintenir, ok, mais c'est ignoble de regarder.
Ça va se maintenir, ok, déjà, c'est même pas sûr.
Non, mais peut-être que ça se maintiendra, mais si ça se maintient, personne ne sera content de les voir.
Et du coup, on n'en fera pas un épisode spécial, mais le Equele Manga latéral, c'est quand même un grand concept de cette saison de foot.
Oui, il faudra faire un point un jour sur l'effectif de Lorient de ces années-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Entre Equele Manga, Didier Ndong, Lamine Koné, il y a des trajectoires, des histoires de carrière. Je ne sais pas où est Zargo Touré, mais c'est le meilleur prénom de la Ligue 1 pendant quelques saisons. Zargo, ça fait vraiment méchant dans Spirou et Fantasio, donc c'est assez incroyable comme prénom. Voilà, on s'arrête là-dessus. On a fait déjà, je pense, une bonne heure, Florent, peut-être
ouais,
un peu
une
plus.
Heure. C'est ça.
Voilà, bah comme le dernier épisode. On revient quand, Florent? C'est toi qui as toujours ce calendrier dans la tête.
Oui, ben on revient la semaine prochaine avec un épisode qui va nous voir prendre encore plus de risques au niveau des paris, puisque ça sera l'épisode des takes de fin de saison. Donc on va venir avec quelques épices sans doute, et puis on va essayer d'animer cette fin de saison. Évidemment, c'est des takes sur lesquels nous rebondirons. Après la fin de saison, histoire de faire un bilan et de voir...
On avait fait ça la saison passée, Florent, oui. Je crois, avec système de pourcentage que personne n'avait compris, même pas nous-mêmes.
Mais on l'avait fait plus tôt dans la saison, on l'avait fait dès le mois de janvier.
Là... J'avais notamment annoncé Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions, on s'en souvient encore.
Oui, peut-être.
Enfin, non, personne ne s'en souvient.
Ah, si.
Si on s'en souvient, c'est déjà pas mal. Hein.
Les auditeurs auront la mémoire plus longue que vous qui oubliez tous mes succès. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. On vous rappelle qu'on est sur vuedubanc.fr qui a été mise à jour, Florent.
Mmh. Oui, presque. Parce qu'il y a un épisode entre-temps. Mais oui,
bon,
presque.
Il y a toutes les infos. On est sur toutes les plateformes d'écoute possibles. Je crois qu'il n'y en a aucune qui nous refuse. On est sur Facebook et sur Twitter, et c'est Vuedubanc Podcast, le nom des deux. Donc voilà, on est partout. Et puis vous nous écoutez, nous téléchargez sur toutes les plateformes.
Oui, téléchargez, merci, s'il vous plaît.
Merci d'avoir écouté. Merci à toi, Christophe. Merci à toi, Florent, notamment pour vos paris pertinents. On se retrouve donc la semaine prochaine avec les hot takes, les spice, avec beaucoup de cuchoïdes et de tenuites. Ciao.
Salut.
Cordialement.
Vous pensez avoir tout compris ? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.